savez, la résistance, je n'ai pas fait pour la gloire. J'ai fait parce que j'avais le sentiment que j'ai le devoir de faire. J'ai le devoir de faire, de contribuer à cette lutte contre les Allemands.
Bonsoir. Notre émission est la première d'une série de trois consacrée à Erwin Bodnar. Erwin Bodnar est un des rares survivants des groupes de résistants FTP-MOI de la région Rhône-Alpes du groupe Carmagnol-Liberté. Les groupes FTP-MOI comme Main-d'œuvre immigrée étaient des groupes de résistants majoritairement étrangers ou d'origine étrangère, dont bon nombre étaient des anciens de la guerre d'Espagne et ou issus des communautés juives, italiennes, polonaises, roumaines, hongroises, etc. Erwin Bodnar a bien voulu nous rencontrer à Villeurbanne à la veille du 68e anniversaire de la libération de Villeurbanne et évoquer avec nous quelques épisodes de son activité de résistant de l'époque, de sa vie et de son activité depuis la libération. Erwin Bodnar est né en Roumanie le 25 août 1919. Il est donc âgé au moment de cet entretien de tout juste 93 ans. Il est venu en France, à Lyon, pour effectuer ses études de chimie en 1937. La guerre survint, il chercha à poursuivre et terminer ses études. Après l'installation du régime de Vichy, son amour pour la France, ses convictions anti-nazies et bien sûr son statut de juif étranger l'ont déterminé à rejoindre la résistance dès le début de 1942. Tout d'abord dans le cadre d'un groupe hongrois, ensuite à la jeunesse communiste de l'Isère, et finalement dans le cadre des FTP-MOI Carmagnol-Liberté. Après la libération de Lyon, il s'est engagé volontaire dans l'armée française, a pris part à la campagne de l'Italie du Nord, dans le cadre du 85e bataillon du génie de la 27e DIA au printemps 1945. Il a été démobilisé le 19 septembre 1945 avec le grade de sous-lieutenant de génie. Dans cette première émission, il nous expliquera comment il est venu étudier en France dès avant la guerre et comment il va se trouver, la guerre survenant, dans une situation qui l'amènera très vite à s'engager contre le nazisme. Bonne écoute.
Dans la montagne de Cachemire vit le sultan de Salamandragore. Le jour il fait tuer un tas de monde, et quand vient le soir il s'endort. Mais dans ses cauchemars les s'il n'y avait pas dis-le sur le temps, il n'y aurait pas de mort. Et le bourreau répond d'accord, que tout le reste y passe alors. Comme le sultan l'a dit, les femmes, les enfants, les siens et ceux des autres, le veau, le loup, la guêpe et la douce brebis, le bon vieillard intègre et le sombre chameau, les actrices de théâtre, le roi des animaux, les planteurs de bananes, les faiseurs de bons mots, et les coqs et leurs poules, les œufs avec leurs coques, et personne ne reste pour enterrer quiconque. Comme ça, ça va. Le sultan de Salamandragore, mais reste là
Bodnar, bonjour. Je vous remercie de me recevoir pour Radio Canu, pour un entretien au cours duquel nous allons évoquer toute votre vie et plus particulièrement votre action dans la période de la guerre 39-45, mais aussi de ce qu'il est advenu de vous après. Peut-être nous allons commencer par votre naissance en Roumanie.
Oui, merci bien. Et j'essaierai d'être très court et d'expliquer un tout petit peu. Au fait, je suis né en Transylvanie, qui est devenue une province de la Roumanie après la Première Guerre mondiale. Cette partie du pays appartenait à l'Empire autrichien-hongrois. Par la suite, la Roumanie s'est mise avec les Alliés et comme récompense en 1919, a été attachée à la Roumanie. Un peu plus tard, c'était le traité de Trianon en 1920. C'est comme ça que j'ai eu la nationalité roumaine. Il faut savoir que j'ai eu assez de grandes difficultés quand j'étais petit, parce que ma mère avait la langue maternelle hongroise, mon père le roumain. Bon, alors, à la maison, on parlait l'hongrois, à l'école, le roumain. D'ailleurs, il faut signaler que la Roumanie était toujours un pays francophone. Donc, au lycée, ce que j'ai appris, ça m'a beaucoup servi par la suite pour faire mes études. Alors, je suis né en 1919 et j'ai eu mon anniversaire
il y a quelques jours.
Il y a quelques jours.
93, hein?
Alors, j'ai fait le lycée dans la ville de Oradea. C'est une ville à la frontière verte, à la frontière avec la Hongrie. Et en 37, après mon baccalauréat.
Si on s'arrête un petit peu, vous parliez déjà français donc avant 37. Les cours n'étaient pas en français quand même, si?
Non, c'était une langue était en roumain, mais la première langue étrangère au lycée, c'était le français. C'était de telle manière que, par exemple, la dernière année quand on apprenait le français au lycée, le manuel, tout le manuel était consacré à la visite de Pierrot, dont son père lui a dit « s'il termine bien l'école, l'amènera à Paris ». Et alors, c'était décrit tellement Paris, quand je suis arrivé pour la première fois, comme si je connaissais
déjà.
Une chanson qui dit un mal inguérissable, plus triste qu'à minuit la place d'Italie, pareil au point du jour pour la mélancolie, plus de rêves aux doigts que le marchand de sable, annonçant le plaisir comme un marchand d'oubli. Une chanson vulgaire et douce où la voix baisse comme un amour d'un soir doutant du lendemain. Une chanson qui prend les femmes par la main. Une chanson qu'on dit sous le métro Barbès et qui change à l'étoile et descend à jasmin. C'est Paris, ce théâtre d'ombre que je porte, mon Paris qu'on ne peut tout à fait m'avoir pris, pas plus qu'on ne peut prendre à des lèvres leurs cris. Que n'aura-t-il fallu pour m'en mettre à la porte? Arrachez-moi le cœur, vous y verrez Paris. C'est de ce Paris-là que j'ai fait mes poèmes. Mes mots sont la couleur étrange de ces toits, la gorge des pigeons iroukous, les chatois. J'ai plus écrit de toi, Paris, que de moi-même, et plus que de vieillir, souffert d'être sans toi, qui n'a pas vu le jour se lever sur la scène, ignore ce que c'est que ce déchirement. Quand prise sur le fait, la nuit qui se dément, se défend, se défait, les yeux rouges obscènes, et Notre-Dame sort des eaux comme un aimant. La horte du Pont-Neuf frémit comme un orchestre où j'entends préluder le vin de mes 20 ans. Il souffle un vent ici qui vient des temps d'antan, mourir dans les cheveux de la statue équestre. La ville comme un cœur s'y ouvre à deux battants. Le vent murmurera mes vers au terrain vague. Il frôlera les bancs où nul ne s'est assis. On l'entendra pleurer sur le quai de Passy, et les ponts répétant la promesse des bagues s'en iront fiancés aux rimes que voici. Paris s'éveille et moi pour retrouver ces mythes qui nous brûlaient le sang dans notre obscurité. Je mettrai dans mes mains mon visage irrité, que renaisse le chant que les oiseaux imitent et qui répond Paris quand on dit liberté.
Il faut encore noter qu'il y avait, même avant la Première Guerre mondiale, une grande collaboration entre la France et la Roumanie. Par exemple, les chemins de fer roumains partiellement été construites par des ingénieurs français, et beaucoup de gares en Roumanie étaient construites selon le projet
français.
Oui. Alors, en arrivant à Belfort, la première gare est passée sur la Roumanie.
Et à cette époque où vous étiez lycéen, dans cette situation singulière, Comment, à quelle nation vous vous sentiez appartenir? Vous vous sentiez plus proche de la Hongrie? C'est un peu singulier d'apparaître dans sa jeunesse dans un pays qui vient d'être créé.
On avait quand même une position un peu à part, parce que je suis juif, et on respectait l'État. Donc, je me suis senti là-bas attaché au pays, et finalement, l'enseignement roumain était très bon, parce que mon baccalauréat a été reconnu en France sans examen, sans rien, pour entrer dans une grande école. Alors, quand j'étais enfant, dans la ville où j'habitais, il y avait certaines industries. Naturellement, le Parti communiste était interdit en Roumanie, mais il y avait un parti social-démocrate. Et quand même, le Parti communiste a eu certaines influences. Et par exemple, en 1936, quand c'était la guerre d'Espagne, alors un jour, ils sont venus chez moi, par exemple, m'a dit, mais j'étais adolescent, on te donne, mettons, 1 euro par jour pour que tu achètes ton croissant pendant la récréation, si tu ne pouvais pas donner quelques jours pour envoyer un volontaire en Espagne.
Ils ne vous ont pas proposé d'aller rejoindre les brigades, quand même.
Trop jeune pour ça. Mais il y avait quelques-uns qui sont allés, des ingénieurs, même des docteurs, qui sont allés. Et d'ailleurs, tous ces camarades-là, quand une partie sont morts là-bas, une partie avec l'armée espagnole en 1939 est rentrée en France, ils étaient placés dans des camps de concentration à Gurs et à Vernet, et la plupart, ils ont pu s'échapper et joindre la résistance, les FTP, et tout ça, ils sont rentrés avec ça, pour la Roumanie.
Vous décidez de venir poursuivre vos études en France.
Oui.
C'était quoi En Roumanie, vous n'auriez pas pu continuer?
Je voulais faire la chimie parce que mon père, il avait un petit atelier de faire de la colle. La colle froide qui était une sorte d'innovation d'une maison allemande à ce moment-là n'existait pas encore. Des polymères, des résines synthétiques. Et cette innovation, parce que les ébénistes utilisaient de la colle chaude qui n'était pas très commode, il fallait toujours réchauffer. Alors cette colle froide était basée sur la caséine du lait. J'ai pensé, il avait un seul ouvrier, lui, il travaillait avec. C'était tout à fait en petite échelle, mais moi je pensais que je fais la chimie, et la chimie m'a toujours plu. Effectivement, j'aurais pu étudier en Roumanie, j'ai pris ça en considération. Alors, il y avait à Bucarest, l'école polytechnique, il y avait une section de chimie. Il y avait dans une autre ville, Timișoara, également une section de chimie pour les ingénieurs chimistes. Et dans une autre ville, Cluj, il y avait une école pour les sous-ingénieurs, comme les IUT.
Techniciens.
Voilà. Mais c'était impossible parce que pour les Juifs, il y avait le numerus clausus, il y avait déjà une influence de la droite, et ensuite, à ce moment-là, la monnaie roumaine était convertible. Donc, faisant des calculs, en faisant beaucoup d'économies, ça aurait coûté presque la même chose.
Mm-hmm.
Pour vous dire, les économies, on choisissait les petits bistrots où le pain était inclus dans le menu, parce qu'à 80% dans les restaurants et dans les bistrots, le pain n'était pas inclus. Ouais. Alors, on mangeait beaucoup de pain. Il nous arrivait qu'après un mois, le patron nous a dit, allez dans un autre restaurant, vous mangez trop de pain. Voilà, ça c'était là.
En France,
ah, c'était à Lyon. À Lyon. Alors, j'ai fait l'école de chimie. Et j'ai terminé l'école de chimie, l'examen de diplôme, c'était fixé le 17 juin 1940.
Et depuis septembre 1939, qu'est-ce que vous vous étiez dit? Parce que déclaration de guerre, septembre 1939, vous deviez vous sentir inquiet ou mal à l'aise.
Mais attendez, voilà. Pour les vacances, je suis parti en Roumanie, et en 1939, le soir de 3 septembre, quand j'ai entendu à la radio, j'ai commencé à pleurer, parce que le 5 septembre, je devais revenir. Alors la frontière était déjà fermée, les Roumains faisaient des difficultés et tout ça, et ça durait 2 mois que j'ai pu repartir.
Donc vous avez dû attendre 2 mois pour repartir.
Oui, alors je suis arrivé en 3e année, au mois de décembre, au lieu du mois d'octobre. Alors j'ai dû travailler très dur.
Et là, on ne vous a pas réquisitionné, on ne vous a pas mobilisé, vous étiez dans une situation de sursitaire.
J'étais dans une situation de sursitaire et j'ai réussi à obtenir ce sursis. C'était plus dur d'avoir le visa français. J'avais l'ancien visa comme étudiant, d'après la déclaration de la guerre, tous ces visas étaient annulés. Mais heureusement, car Bucarest existait et existe maintenant de nouveau, l'Institut de haute étude pour la langue française. Bon. Et alors, j'ai fait beaucoup d'interventions, alors j'ai eu le visa français, mais c'était pas tout. On ne pouvait plus passer par la Hongrie, l'Allemagne, l'Autriche pour venir. Alors il fallait venir par la Hongrie, la Yougoslavie, l'Italie. Et alors chaque pays me disait, bon, si l'autre vous donne le visa, on va donner. Bon, finalement, on a tout eu et on est pu, le 2 ou le 3 décembre, arriver. Bon. Alors, c'est une chose très intéressante. Et le 3 septembre, j'étais là quand la Pologne était écrasée et une partie des cadres de l'armée polonaise est rentrée parce que la Roumanie et la Pologne avaient une frontière commune. Et alors une partie des aviateurs polonais sont partis, voire sont venus en France. Donc quand je suis revenu au mois de décembre, à ce moment-là, des chemins de fer avaient 3 places. Bon, on a pris la troisième place qui était en bois. Et alors, je rentre dans un compartiment, il y avait là-bas quatre jeunes habillés tous en la même chose en bleu marine, en costume, tout ça. Et vous savez qu'ils dormaient. Et ils ne disaient pas un mot jusqu'à ce qu'on est arrivé à Modane. Et alors, c'était les aviateurs polonais qui sont restés, qui s'est formé la brigade d'aviation en France. Ensuite, ils sont partis en Grande-Bretagne, attachés à la Royal Air France.
Qui sont nés dans les années banales perdent de vue la trace de leur pas. Nous les enfants d'une époque fatale vivons de jours que l'on n'oublie pas. Année au bout des cendres de poussière, folie, espoir, quelle est votre message de la libération et de la guerre? Reste un reflet sanglant sur les visages. Et que lui disent, mais oui, les jeux de lèvres s'est arrêté à l'ordre du tocsin. Dans le corps, jadis battant de fièvre, on sent le vide d'un fatal destin. Qu'importe, vienne sur nos couches s'abattre les corbeaux en vol funèbre. Seigneur, que laisse-lui par notre bouche trouver votre royaume. Les années banales perdent de vue la trace de leur pas. Nous les enfants d'une époque fatale vivons des jours que l'on n'oublie pas.
Au mois de juin, vous êtes parti. Pourquoi? Parce que tout le monde partait ou...
Ah bah, écoutez, moi j'avais l'habitude de ne pas étudier la veille de l'examen. Je vous ai dit que le 17 juin était fixé, c'était un lundi, le jour de mon examen de diplôme. Et alors, dimanche après-midi, je suis sorti en ville. Ben, qu'est-ce que j'ai vu en sortant? Tout le monde mettait le matelas sur les voitures et il y avait une pagaille indescriptible. C'est très difficile à vous raconter. Alors je me suis dit, je veux aller me promener, vous connaissez bien Lyon, sur le quai Tilsit. À ce moment-là, c'était la route qui venait de Paris. Et alors, qu'est-ce que j'ai vu là? Des camions militaires en grande vitesse, tous vers le sud. Et quand je regardais, je savais autant, j'ai regardé que ce n'était pas des unités organisées. Alors, je me suis dit, ça, c'est pas la retraite, ça, c'est... Bon, les camions étaient bâchés, vous connaissez comment ça... Il y avait un camion où la bâche allait, était ouvert et j'ai vu à l'intérieur des soldats blessés et tout ça même. Voilà, ça m'a fait beaucoup de mal. Et alors, quand même, je suis allé jusqu'à l'école le 17 pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, pris dans cet engrenage, avec un de mes copains, on a pris une boîte de biscuits brun qui était dans des boîtes métalliques, 1 kilo de sucre, on a mis sur le vélo et on est allé vers le sud.
Vous dites indescriptible, l'atmosphère, l'ambiance, ça veut dire quoi? Parce que c'est important qu'on essaie de se rendre compte aujourd'hui de tout ce qu'il en était, parce qu'il n'y a pas tellement de photos, de choses comme ça qui donnent une idée.
Écoutez, les gens avaient peur de la guerre, avaient peur des Allemands, parce que les informations circulaient, des informations qui étaient vraies et des informations qui empoisonnaient, même ça existait la cinquième colonne, on parlait de ça, voilà. Et alors, certainement, à cette atmosphère a contribué également cette propagande où ces traîtres qui existaient déjà, des pions, des Allemands qui étaient déjà présents en France, certainement. Et pour vous dire, ce lundi matin, déjà, par exemple, il y avait une laiterie dans une fromagerie tenue par une dame et où on est allé acheter du lait. De temps en temps, je suis allé là-bas ou un petit bout de fromage. Eh bien, ils donnaient gratuitement tout parce qu'ils avaient peur des parties. Et ensuite, au port, il y avait des réservoirs d'essence. Ça commençait à brûler. Les Français, avant de partir, bon, les pompes d'essence donnaient de l'essence gratuitement. Bon. Et sur cette route qui était encombrée, les gens allaient à pied, allaient avec des petites charrettes tirées, allaient en vélo, allaient en voiture. Voilà, c'était... Et les Italiens sont venus, les chasseurs, non pas tirer, mais pour faire peur, là, parce que l'Italie est rentrée bien.
Tous ces gens ne se parlaient pas, quoi. Tout le monde partait vers le sud, mais...
Tout le monde partait vers le sud.
On n'échangeait pas de propos sur le sud.
Tout le monde avait là, dans sa tête, d'aller le plus loin possible. Et il pleuvait.
Il pleuvait.
Ah, il pleuvait. Il pleuvait. Il pleuvait ce jour-là. Je suis arrivé jusqu'au Condrieu. Et alors, on s'est arrêté parce qu'on a entendu que déjà les Allemands viennent par une autre route de Valence. Ils sont arrivés déjà avant les... Bon, alors, on est resté par là quelques jours puis on est revenu à Lyon.
On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre est arrivée. Moi, de mes 11 ans d'altitude, je découvrais éberlué des soldatesques fatigués qui ramenaient ma belgitude. Les hommes devenaient des hommes, les gars avalaient des soldats qui faisaient ceux qui ne s'en vont pas. Et les femmes s'accrochaient à leurs hommes. On jouait un air comme celui-ci, lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci, lorsque la guerre est arrivée. Et voilà que le printemps flambe, les canons passaient en chantant, et puis les voilà revenant, déjà la gueule entre les jambes. Quand me repassaient en pleurant nos grands frères devenus vieillards, nos pères devenus brouillards, et les femmes s'accrochaient aux enfants. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre est arrivée. Je découvris le réfugié. C'est un paysan qui se nomade, c'est un banlieusard qui s'évade d'une ville ouverte qui est fermée. Je découvris le refusé. C'est un armé que l'on désarme et qui doit faire chemin à pied. Une femme s'accrochait à leurs larmes. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre est arrivée. D'un ciel plus bleu qu'à l'habitude, ce mai 40 a salué quelques Allemands disciplinés qui écrasait ma belgitude. L'honneur avait perdu patience, et chaque bourg connut la crainte, et chaque ville fut éteinte. Et les femmes s'accrochèrent au silence.
Bon, alors dans Lyon, les mauvaises nouvelles commençaient à tomber. Eh ben, la Roumanie a commencé à être démembrée, la Bessarabie a été prise par les Russes, une partie des Bulgares, ils ont pris les Bulgares et tout ça. Puis en 40, c'était au mois de septembre, c'était le traité de Vienne où la Roumanie a été démembrée, une partie de la Transylvanie a été rendue à la Hongrie. Alors Hitler, il n'a pas fait autre chose que de partager et faire le chantage et la pression en disant, si vous ne venez pas tous contre les Russes, ben, je prends l'autre partie de Transylvanie et je donne à la Hongrie. Si vous venez, on va vous rendre ça. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a rendu à la Roumanie parce que avant la terminaison de la guerre, le roi Michel a tourné les armes contre les Allemands.
C'était la partie. Et vos parents, en 40, ils étaient, une fois que la Roumanie a été envahie, ils étaient de quel côté?
Ben, et on habitait la ville. La ville était rendue à la Hongrie. Mm-hmm. Il y avait il y avait des Roumains, il y avait des Hongrois comme majorité de la population hongroise. Avant la Première Guerre mondiale, il y avait 5% de Roumains seulement. C'était changé. Ensuite, par la suite, le nombre de la population roumaine s'est accru fortement. Et il y avait environ 25% de la population, c'était une ville de 100 000, qui étaient des Juifs. Voilà. Et alors, à un moment donné, en 1944, systématiquement, tous les Juifs étaient pris par les Allemands. Ils ont laissé la main libre, les Hongrois, ils ont collaboré. Ils étaient tous déportés à Auschwitz et ailleurs. Et de tout ça, sont revenus environ 2000 personnes. Environ 2000 personnes.
Sur combien de déportés, vous avez une idée du chiffre?
Ah ben, on parle de entre 25 et 30 000 qui étaient déportés de cette ville-là. Alors, c'est encore à remarquer la chose suivante, que la Roumanie en 42-43, ne déportait pas les Juifs. Et il n'y avait pas une déportation organisée. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, les armées roumaines qui étaient en Russie, en Ukraine, ils ont tué tous les Juifs qu'ils trouvaient dans le chemin.
Et vous, là, au milieu, vous avez traversé tout ça sans qu'on vous interpelle ?
Non, mais ce qui s'est passé pour moi. Alors, à Lyon, j'ai terminé, j'ai eu le diplôme au mois d'août, et je voulais faire une thèse de doctorat. J'ai posé ma candidature chez trois professeurs. Il y avait un nommé Fromageau, qui était de chimie biologie. Il m'a pris pour faire une thèse de doctorat. Alors j'ai commencé ça, thèse de doctorat, là-bas. Mais malheureusement, en 1941, la situation était telle que j'ai dû interrompre ça, cette thèse-là.
Pour quel motif ?
Vous savez, en chimie, on ne peut pas travailler et de travailler au laboratoire. Quand vous travaillez, vous faites un doctorat, mettons en philosophie, vous avez les nuits et vous bossez, vous travaillez. Mais en chimie, il y a des heures de laboratoire. Et c'était impossible de donner des leçons et de faire autre chose. Et c'était aussi...
Ça, c'est pas parce que vous étiez juif, c'est parce que l'enseignement ne pouvait non, plus être assuré, quoi.
Fromageau m'aurait tenu, m'aurait gardé, mais moi, je ne pouvais plus. Et c'est moi qui lui a dit ça. Et alors, j'étais très démoralisé, j'avais des amis à Grenoble, et je suis allé les voir. Et alors, un jour, j'ai regardé le journal qui... C'était le petit Dauphinois. Maintenant, c'est le Dauphinois libéré. Bon. Alors, j'étais tellement ennuyé, tout ça. J'ai regardé les petites annonces. Et là, c'était marqué laboratoire de recherche et d'analyse de Grenoble cherche d'urgence un homme, un chimiste, un chimiste homme ou femme. Alors, j'ai dit à mes amis, mais je veux postuler, on dit, mais comment tu veux, en 41 comme juif, qui va te prendre. Je dis, ben, je veux postuler quand même, parce que, entre-temps, il faut dire que j'ai changé mon nom, j'étais obligé de changer mon nom plus tard. Voilà. Et je suis reparti à Lyon, c'est quelques jours, et le lendemain, j'ai reçu un télégramme, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de fax, il n'y avait rien. Viens vite, parce que tu es convoqué. Et alors, ce monsieur-là, sorti de même à cours de Lyon, était de 10 ans mon aîné, et m'engager. Et ça a commencé, il est parti en vacances. J'ai travaillé jour et nuit pour qu'il soit content. Il revient, mais moi j'avais une carte d'identité d'étudiant. Je n'avais pas d'autorisation de travailler. Et alors, lui, il a demandé une autorisation de travail pour moi. 3 semaines après, à 6 heures du matin, la police vient m'arrêter. La police, ils me disent, vous êtes venu comme étudiant, on vous donne une semaine pour partir parce que maintenant vous travaillez, sinon on vous met dans un camp de concentration. Et alors finalement, j'étais expulsé de Grenoble, à Fontaine, qui est à côté. Alors il m'a tenu après ce monsieur-là, il a travaillé en noir après, on disait que je suis stagiaire et tout. Puis après, son frère était arrêté par la Gestapo parce qu'il était soupçonné qu'il cache des avoirs juifs ou je ne sais pas, il n'était pas, il était catholique. Et après ça, je suis parti. Mais quand j'ai travaillé au laboratoire, j'avais une chambre là-bas. Et là, j'ai organisé l'imprimerie clandestine qui appartenait à la jeunesse communiste. Bon. Alors, j'habitais, je vous ai dit qu'on m'a interdit d'habiter Grenoble. Mais, le travail 3 ou 4, je ne me rappelle pas exactement, menait à Fontaine, qui était à 10 minutes. Et alors, Fontaine n'était pas Grenoble, et alors j'ai trouvé, on m'a recommandé une chambre qui était chez une dame qui avait un fils qui était sergent ou adjudant d'aviation dans l'armée française de Vichy. Il était engagé avant et il restait là-bas. Bon. Et j'étais arrêté à... C'était le jour de mon anniversaire. Et alors, j'aurais pu dormir au laboratoire, je me suis dit, ben, je vais dormir dans un bon lit. À 1 heure sont arrivés les gendarmes, ils m'ont arrêté.
25 ou 42 heures.
C'était la nuit de 25 à 26 août 1942. D'ailleurs, musée de la résistance de Grenoble, où je suis allé plusieurs fois et je connaissais le directeur, j'ai trouvé là-bas les instructions qui étaient données à ces groupes, comment arrêter les gens. Alors, on était arrêté, j'étais arrêté, on m'a amené à la caserne Bisonnet de Grenoble, enfin. Et déjà, tout était préparé pour partir. Rentre un commissaire. Et il m'a dit, ceux qui ont des passeports valables roumains et hongrois, viens chez moi. Et je suis allé, j'ai eu la présence d'esprit quand on m'a arrêté de mettre mon passeport qui était valable dans ma poche. Et alors on m'a dit, foutez le camp. Alors j'ai appris qu'est-ce qui s'est passé. À ce moment-là, en 1942, ni le gouvernement roumain, ni le gouvernement hongrois n'étaient pas d'accord que le ressortissant à l'étranger soit rafé par les Allemands. Voilà.
Et c'est ça qui vous a sauvé.
C'est qui m'a sauvé, voilà. Et alors je suis rentré après ça dans l'illégalité. Je me suis dit, maintenant il n'y a plus.
Pourtant ces gouvernements, ils étaient passablement antisémites.
Oui, ils étaient antisémites.
Mais ils n'allaient pas jusque-là, quoi.
Ouais, ils allaient plus loin après.
Après, oui.
Après, ils sont allés plus loin. Ils sont allés plus loin.
In sein Schutten eingehielt, wo geheim es hoben leeres, in so
Vous aviez été contacté par des résistants à ce moment-là déjà.
Bah, écoutez, ça conclut notre histoire. À Grenoble, vous savez, c'est un centre chimique. Il y avait entre autres une usine de viscose. C'était la seule fibre synthétique qui existait avant la guerre et pendant la guerre. Il n'y avait pas de nylon. Et là, la fabrication de viscose est très polluante et assez toxique. Et alors, il y avait beaucoup d'ouvriers hongrois là-bas. Et alors, parmi ces ouvriers hongrois, s'est développé de nouveau une cellule communiste. Et là, on est rentré en contact par des amis et tout ça, voilà. Comme ça, je suis arrivé à MOI. Alors, ils sont venus au début. On a distribué des tracts, ensuite on est allé le soir, la nuit, de faire la peinture.
C'était déjà des groupes de MOI, ils n'avaient pas encore pris le nom de Liberté, le nom du bataillon Liberté, c'est venu bien après.
Et le nom de bataillon Liberté est venu après, après fin 42, par là, oui. Non. C'était des groupes. Et venait d'abord le travail politique, ensuite est venue la branche armée et tout ça. Parce que le moment, quand c'est arrivé chez le frère de mon patron, cette aventure, ben, on a déménagé, on ne faisait plus là-bas l'imprimerie, on est allé dans un bâtiment, chez un autre. Copains, on a continué comme ça. Alors, après ça, je me suis dit, ben, pour vous dire, on a déménagé sur Gambetta dans un endroit qui était à côté des casernes allemandes. Et j'ai dû continuer le travail parce que le 7 novembre, 11 novembre, tout ça. Et alors ça s'est passé en octobre. J'ai commencé à prévoir. C'était un chantier d'une société de construction où c'était déposé des béton armé ou des trucs pareils. Et alors, là-bas, il y avait aussi un petit bâtiment où c'était des vannes. Mais le bâtiment n'avait pas de fenêtre. Il n'y avait rien. Et alors, le matin, avant l'arrivée des ouvriers qui prenaient les pièces, notre camarade m'enfermait là-bas. Et après, le soir, je ne peux pas partir, alors j'ai travaillé là-bas, mais de ma fenêtre, j'ai vu la caserne allemande qui était. Alors je me suis dit, j'ai demandé au Badi, j'ai dit, mais je suis là, je ne suis pas armé, qu'est-ce que je fais si je suis attaqué? Viens. Alors il me dit, on peut vous donner un pistolet 6.35. Alors j'ai dit, avec ça, je peux simplement me suicider et c'est pas sûr si je rate pas ça. Et alors finalement, je me suis décidé de rentrer dans les FTP directement. Et à la fin de l'année 43, je suis rentré dans la liberté, dans les FTP liberté.
Les temps ne sont plus à gémir sans cesse sur les gloires du beau temps de jadis. La lutte s'offre à toi, brave jeunesse, reprends les armes pour le pays. Des bataillons au maquis se forment, garçon, n'hésite pas. Le corps de nouveau partout résonne, garçon, presse le pas. Les temps sont venus de venger la terre souillée par les soldats allemands. Un seul cri aux armes, la France espère, il faut se battre, la France attend. Unis dans la lutte et l'espérance de vaincre ou de mourir, donnons au pays sa délivrance, forgeons son avenir.
Ainsi se termine cette émission qui était la première d'une série de trois consacrée à Erwin Bodnar. Erwin Bodnar est un des rares survivants des groupes de résistants FTP-MOI de la région Rhône-Alpes du groupe Carmagnole Liberté. Au fil de cette émission, vous avez pu entendre les illustrations musicales suivantes. Tout d'abord, en tout début d'émission, un extrait du chant des partisans de Druon et Kessel sur la musique d'Anna Marly dans une interprétation de la chorale populaire de Lyon. Puis c'était le texte de Jacques Prévert mis en musique par Joseph Cosma, le sultan interprété là par Frédéric Carminati. Ensuite, vous avez entendu le poème de Louis Aragon, Paris 42, mis en musique par Lino Leonardi et interprété par Monique Morelli. Puis c'était la Cobla de Barcelone qui interprétait l'hymne officiel de la République catalane, Els Segadors. Ensuite, vous avez entendu la chanson Les années fatales, interprétée par Anna Prucnal, sur une musique de Gérard Daguerre et sur des paroles de Alexandre Bloch, traduites par Gabriel Haro. Puis c'est Jacques Brel qui interprétait sa composition Mai 40. Ensuite, deux extraits de Vilna, le chant des partisans de Vilno, de Louis Wolfson, sur une musique de Alexander Olchanetsky, dans l'interprétation de Freddy Katz. Et enfin, un extrait de la chanson Les temps ne sont plus, un chant du maquis de la région Limousin-Corrèze, interprété par Rosalie Dubois. Nous remercions chaleureusement Erwin Bodnar d'avoir bien voulu accepter cet entretien pour l'émission Vendémiaire de Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Notre prochaine émission sera consacrée à la période de son action de résistant à Grenoble, à son entrée dans la clandestinité et dans les FTP, et à son arrivée à Lyon où il rejoint le groupe Carmagnole pour continuer l'action. Bonsoir. Thank you.
Thank you.